La Voix des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Depuis le milieu du XXe siècle, les études en génétique ont prouvé que les races n'existent pas. Nous sommes toutes et tous Homo sapiens. Pourtant, au cours du XVIIIe siècle et jusqu'à la fin du XXe, des scientifiques parmi les plus renommés ont cherché à diviser l'humanité en races distinctes et inégales. Ces thèses, dites racialistes, ont justifié l'esclavage, la colonisation et le suprémacisme. Nous allons retracer le cours de l'histoire dans cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. Mais avant toute chose, un petit moment définition s'impose. Aujourd'hui, on va parler de racisme scientifique, aussi appelé racialisme. C'est la justification pseudo-scientifique, créée puis répandue à partir du XVIIIe siècle, de la hiérarchisation entre les humains, selon leur couleur de peau, leur origine et d'autres facteurs physiques et culturels. Comme je l'ai dit en introduction, la génétique moderne nous permet de balayer ce concept. Le consensus scientifique, c'est que la race au sens biologique n'existe pas. Mais comment il peut encore y avoir du racisme si les races n'existent pas? Eh bien, les sciences sociales ont montré que le concept de race est plutôt une construction sociale. On parlera par exemple d'une personne racisée quand le groupe majoritaire, ici les Blancs, lui assigne un statut minoritaire. Le terme, inventé par la sociologue Colette Guillaumin dans les années 70, permet de nommer les victimes du racisme. Revenons au racisme scientifique. Autrefois basé sur des savoirs que l'on pensait fondés, il est à la racine des discriminations que l'on connaît encore aujourd'hui. Il nous interroge sur comment on fait de la science, quel est son impact sur la société et comment on a cherché à justifier les dominations d'hier et d'aujourd'hui. Pour parler de tout ça, nous recevons dans cette émission Gilles Butch, anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS et auteur de nombreux ouvrages, notamment sur les zoos humains. Mais également Delphine Peretti-Courtis, professeure agrégée d'histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste en littérature médicale produisant les stéréotypes raciaux. Nous entendrons également Cécile, qui est revenue sur le cas de l'homme de Néandertal, dont l'image, fausse, de sauvage, a été consciencieusement entretenue pour des raisons racistes. Cette émission est en co-animation avec Pierre, c'est moi, et Shaima, bénévole du Labo des Savoirs.
Les voies de la recherche scientifique au Labo des Savoirs.
La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction de sexe, d'origine ou de religion. Si vous vous attendiez à entendre le mot « race » dans cette citation du premier article de notre Constitution, c'est normal. Le concept de race humaine y était inscrit jusqu'en 2018, un héritage notamment de notre histoire coloniale. En repensant à notre histoire coloniale, on visualise des continents, des îles lointaines, loin dans le temps également. La France et les défenseurs de sa prétendue mission civilisatrice s'en arrangent et se targuent que l'esclavage et la ségrégation n'ont jamais eu lieu directement sur le sol métropolitain. Pourtant, c'est omettre certains événements qui nous sembleraient aujourd'hui insupportables pour le pays dit des Lumières. Les expositions d'humains dans des zoos, parqués derrière de lourds barreaux pour le divertissement des Blancs en quête d'exotisme. Shaima, tu as cherché à en savoir plus sur ces zoos humains. Je te laisse la parole.
Aujourd'hui, nous abordons le racisme scientifique. Longtemps, les sciences ont été instrumentalisées pour justifier des hiérarchies arbitraires entre les peuples, légitimer la colonisation et construire des mythes d'infériorité. Parmi les aspects les plus marquants de notre histoire, il y a la mise en scène des populations dites exotiques dans des zoos humains. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Jill Boch. Vous êtes anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS et ancien président du conseil scientifique au Centre national de la recherche scientifique CNRS. Vos recherches s'orientent notamment dans les domaines de l'anthropologie corporelle, démographique, coloniale et dans le champ des représentations sociales. Vous avez publié comme co-auteur ou co-directeur plusieurs ouvrages et je cite en particulier votre ouvrage Zoo humain. Bonjour Monsieur Gilles Boch et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous de m'inviter.
Peut-être pour commencer, pourriez-vous nous expliquer ce qu'on entend par les zoos humains ?
Ah, alors les zoos humains. Les zoos humains, c'est une manière d'exhiber l'autre en le ramenant à une dimension de sauvagerie ou de primitivisme. Ça a commencé vraiment, le premier qui a peut-être fait ça, c'était peut-être Christophe Colomb quand il a ramené des Indiens à la reine d'Espagne, mais de manière beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus financière, ça a commencé en Allemagne avec Hagenbeck, Karl Hagenbeck qui était un poissonnier et qui avait l'intention à Hambourg où il était donc propriétaire de grandes poissonneries, il voulait exhiber des animaux du Nord, des rennes en particulier, dans un zoo. Un zoo à Hambourg qu'il a fait construire. Mais il s'est aperçu très vite que le public qui venait s'intéressait plus aux hommes qui accompagnaient les rennes plutôt qu'aux rennes eux-mêmes. Et du coup, ça lui donnait l'idée. Donc il s'est dit, mais plutôt que d'exhiber des animaux, je vais exhiber les animaux avec les hommes avec lesquels ils vivent ou qu'ils fréquentent. Et puis petit à petit, c'était uniquement les hommes. Quand est-ce qu'il a fait ça à Hagenbeck ? Eh bien, il l'a fait en 1874 à Hambourg. Et je dois dire que ça a très très bien marché. Et du coup, en France, le jardin d'acclimatation dont vous avez peut-être entendu parler dans le bois de Boulogne, avait subi de graves dégâts sur le plan zoologique, puisqu'il y a eu la guerre de 1870 à Paris. Vous savez que les Parisiens n'avaient plus rien à manger. Donc ils ont mangé tous les animaux des zoos, y compris des rats après, mais quand il n'y avait même plus d'animaux des zoos. Donc c'était une véritable catastrophe. Et ce propriétaire s'appelait Geoffroy Saint-Hilaire, et il a appris que Hagenbeck avait monté des exhibitions ethnographiques qui avaient bien marché. Il a pris contact avec Hagenbeck, il a fait venir des troupes à Paris, au jardin d'acclimatation, et ça a duré, on va dire, à peu près jusqu'en 1900. Il y a eu des exhibitions au jardin d'acclimatation. Après, il y en a eu d'autres ailleurs. Il y a eu les villages nègres, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées pour montrer l'autre, mais toujours, effectivement, dans un souci de le rabaisser, et en tout cas de montrer qu'il était différent de nous. Et le rôle des zoos humains est extrêmement important, parce qu'effectivement, rappelez-vous que dans les années 1870-1880, c'est l'époque des grands travaux à Paris, Haussmann va percer des avenues, des boulevards, ça va attirer beaucoup de monde, il y a beaucoup de travailleurs, les gens vont venir commencer à habiter à Paris. Et alors, à l'époque, il n'y avait ni Internet, ni cinéma, ni télévision, donc il y avait quand même relativement peu de loisirs. Donc les loisirs consistaient le dimanche à aller se promener et aller voir des choses pour s'éduquer un petit peu. Et évidemment, dès qu'on a mis en place ces exhibitions ethnographiques au jardin d'acclimatation, il y a eu beaucoup de monde qui sont allés. Il y a à peu près 3 millions de visiteurs. Et alors évidemment, pourquoi est-ce que je dis, moi c'est ce que j'écris toujours, pourquoi est-ce que je dis que ces zoos humains, c'est l'antichambre du racisme, non pas scientifique mais populaire, après on y reviendra sur le racisme scientifique,
oui.
Parce qu'effectivement quand vous allez dans un zoo, vous allez voir des gens derrière des grillages, vous pensez bien que c'est pas la même humanité que vous, c'est des gens qui sont forcément inférieurs, et en plus les impresarios leur faisaient faire des rôles. À l'exposition de 1889 à Paris, les organisateurs faisaient jouer des rôles de cannibales à des Kanaks de Nouvelle-Calédonie Et les deux Kanaks, c'était rapporté évidemment par des journaux de l'époque, les deux Kanaks en question étaient un facteur et l'autre instituteur.
Donc, ça, le fait de montrer l'autre, est-ce qu'il y avait d'autres motifs, d'autres raisons derrière ça ? Est-ce qu'il y avait un projet scientifique derrière au départ ?
Au départ, les gens qui organisaient ça, c'était pas des philanthropes, c'était des hommes d'affaires, des businessmen qui recrutaient des chargés de projets dans les pays en question, que ce soit au Dahomey, au Sénégal, etc. Et eux recrutaient des gens qu'ils payaient et qui venaient s'exhiber.
D'accord.
Donc c'était du spectacle au début, vous voyez.
Oui.
Mais évidemment, comme c'était des populations de l'ailleurs, eh bien, ça a servi aux idéologues pour montrer l'infériorité des gens.
On comprend au début, c'était du spectacle. Mais selon vous, quand est-ce que les scientifiques ont commencé à s'intéresser aux questions de la race ?
Le problème des scientifiques avec les races, c'est très compliqué. Ça a commencé... Le premier travail qui a eu été publié dans le Journal des Savants au XVIIe siècle, ce savant, en l'occurrence, ce n'était pas un scientifique, c'était un savant. À l'époque, c'était plutôt les savants que les scientifiques. Eh bien, va expliquer que les hommes se répartissaient de manière différente selon leur biologie, leur apparence et un petit peu leur couleur de peau. À partir de ça, les scientifiques occidentaux, que ce soit les Européens ou même les scientifiques blancs américains, vont essayer de construire un objet scientifique qui s'appellerait la race humaine et d'essayer de montrer que cette race humaine n'était pas uniforme ni unique, mais très diversifiée et que c'était un petit peu, si vous voulez, le degré de civilisation selon les normes occidentales qui allait créer un petit peu une différence. Alors, on essayait évidemment de s'accrocher à des traits morphologiques. Il y a eu 5 grands traits morphologiques qui ont toujours été mis en avant. Le premier, c'est évidemment la couleur de la peau. Le deuxième, c'était la couleur des yeux, la forme des cheveux et leur couleur. Et puis, plus tardivement, la stature et l'indice céphalique, c'est-à-dire le rapport entre la longueur et la largeur de la tête. Et à partir de ça, on a essayé de construire des races. Ça n'a jamais marché. Pourquoi ? Parce que la race n'est pas un objet scientifique. La race est un objet, on va dire, socio-politique, mais ce n'est pas un objet d'étude de sciences naturelles. Donc, ça n'a pas pu marcher. Et celui qui l'a dénoncé avec vigueur, c'est un certain Charles Darwin, en 1871, dans un livre qui s'appelle « La descendance de l'homme », où il a expliqué que toutes les classifications n'avaient pas de sens. Voilà.
Oui.
Il y avait qu'une seule race, c'était la race humaine.
D'accord, donc ça n'a pas marché sur le plan scientifique, mais ça marchait sur le plan, par exemple, sur le plan politique. Ça marchait.
Alors, sur le plan politique, aujourd'hui encore, on le voit bien.
Oui.
Sur le plan politique, ça marche, mais simplement, aujourd'hui, on utilise de plus en plus des différences de culturelles, religieuses, tout ce qu'on peut imaginer, alors qu'à l'époque, on essayait d'utiliser des différences biologiques. Mais même si aujourd'hui les différences biologiques ne sont plus mises en avant, elles sont toujours un petit peu sous-jacentes dans les discours.
Vous pensez que les os humains ont disparu complètement ? On peut encore avoir ces représentations, ce genre des os humains aujourd'hui ?
Non, il n'y en a plus. Il y a eu des parodies qui ont été faites, en particulier la dernière dont j'ai mémoire, c'était en 1992. C'était à Nantes, justement, je crois. C'était une marque de biscuits qui avait créé un village, un faux village africain avec des Africains qu'ils avaient fait venir parce qu'ils vendaient un biscuit qui s'appelait Choco, je ne sais plus quoi, vous voyez. Mais il y a eu un scandale énorme tout de suite, donc ça ne s'est pas fait.
Alors,
c'est le dernier que je connaisse dans le genre.
Est-ce qu'il y a une reconnaissance de ces événements dans l'histoire, d'une manière officielle ?
Pas beaucoup. Pas tant que ça, vous voyez bien ce qui se passe, il y a une négation un petit peu, par exemple, de notre passé colonial, il y a beaucoup de groupes politiques qui essayent de le gommer, qu'on n'a pas eu de passé colonial ou on a eu un passé colonial très sympathique, ce qui évidemment est complètement faux. Ça devrait davantage, à mon avis, enseigner dans les écoles, pour que les gens soient un petit peu conscients de leur histoire, des histoires communes qu'on peut avoir avec les autres, et surtout au sujet du racisme, il y aurait peut-être un petit peu plus de travail à faire.
D'accord. Alors là, je reviens au rôle de la recherche scientifique. Bon, à la base, je dis au départ, il y avait ce projet de hiérarchisation de la race humaine la race humaine, mais ça n'a pas marché. Mais il y avait quand même ce glissement de ce projet vers, par exemple, le champ politique. Donc aujourd'hui, le rôle de la recherche scientifique, pour réparer, remettre en ordre ces éléments-là, ou encore pour déconstruire ces discours racistes et lutter contre ces stéréotypes encore présents. Donc quel est le rôle de la recherche scientifique?
On sait depuis longtemps déjà, depuis surtout que la génétique est rentrée dans le champ de l'anthropologie, on sait qu'il n'existe pas effectivement plusieurs races au sein de l'humanité. Il existe une seule espèce, c'est l'espèce humaine, Homo sapiens sapiens. Donc au niveau biologique, c'est relativement entendu. Alors donc les scientifiques, les généticiens y ont travaillé, les anthropologues aussi, les choses pour moi sont un petit peu entendues. Par contre, dans le domaine politique, idéologique, là rien n'est réglé. Et ça, c'est aux gens, moi je suis anthropologue, je suis pas politiste, c'est aux politistes d'essayer de régler ce problème. Mais c'est un problème difficile, parce qu'il va évidemment se surajouter au problème de l'immigration. Oui. Et aujourd'hui, on voit bien que le discours raciste ou antiraciste ne peut pas se dissocier de la base idéologique anti-migratoire. Donc là, c'est plutôt les sociologues et les politistes qui devraient s'emparer de ça. C'est plus dans le domaine de l'anthropologie biologique. Le colonialisme s'est appuyé sur le pseudo-discours scientifique concernant les races humaines. Évidemment, dès qu'on avait des écrits qui avaient tendance à montrer que les gens qu'on avait colonisés, que ce soit les Africains ou les gens en Asie, eh bien, les politistes s'en emparaient pour justifier justement les politiques coloniales. La droite disait il y a plein de ressources dans les colonies, il faut aller s'en emparer, et les gens de gauche disaient on va essayer d'éduquer les colonisés pour en faire des bons français. Il y avait les deux discours, mais c'est un peu le même, quelque part. Parce que ça revient quand même à estimer que l'autre n'est pas ni mûr ni capable. Donc on l'infantilise, on l'infériorise, évidemment. Et là, évidemment, les politiques coloniales se sont bien construites là-dessus, et même les post-coloniales. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui.
Merci Gilles Butch d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver toutes les sources dont on a parlé sur le site Labo des Savoirs. Nous nous retrouvons juste après cette pause musicale de B. Santana de Nick Waterhouse.
Not in New York and I never would. I never did live there because things felt dirty, things felt small. Every room felt just like a hall. You take to another place, another time. Somebody always saying you got to be so free of mind. That was the impression of mine. Well, I'm from California. I'm from California. I'm from California, and I don't mind. I'm from California, born in California. Yes, I'm California.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
C'était B. Santa Anna, 1986, de Nick Waterhouse. Je me tourne maintenant vers Cécile. Tu vas nous parler de Néandertal, mais je suis pas sûr de voir le rapport avec le sujet de l'émission. Est-ce que tu peux nous expliquer ?
Eh bien, malheureusement pour lui, Néandertal a longtemps été empêtré dans le cliché de la brute épaisse, du sauvage à peine différent du singe et dénué d'intelligence. Et ça continue encore aujourd'hui, puisque dans le monde anglo-saxon, c'est carrément une insulte classique pour définir quelqu'un de stupide et incivilisé. Dès sa découverte en 1856, donc il y a presque 170 ans, Néandertal est considéré comme un spécimen pathologique de l'homme moderne, donc même pas un homme préhistorique à part entière. 10 ans plus tard, son ancienneté est reconnue, mais il reste qualifié de sauvage. Puis, entre la fin 19e et le début du 20e siècle, des sites regroupant des centaines d'ossements, mais également la présence d'outils complexes, de peintures et même de sépultures, contredisent clairement l'hypothèse du spécimen pathologique isolé et sauvage. Mais cette information ne diffuse pas dans la société, même pas dans les sphères scientifiques, puisque dans les années 1910, Marcelin Boule, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, approuve scientifiquement une représentation sauvage et simiesque de Néandertal. Celle-ci fera autorité pendant 40 ans, en plus de sa définition qui le distingue alors à peine d'un animal. Dans les années 1940, la science commence à réhabiliter Néandertal et l'anthropologue Carlton Kuhn suppose que lavé, rasé et habillé comme nous, il pourrait passer inaperçu dans le métro de New York. Mais il faut encore attendre 10 ans pour que Néandertal soit enfin considéré comme un hominidé. Et de nos jours, la préhistorienne Marilène Patoumatis le considère carrément comme, je cite, un être parfaitement adapté physiquement et mentalement, sans doute le plus grand chasseur de tous les temps. Côté société civile, Néandertal est représenté comme une bête violente, avec notamment le film The Neanderthal Man, sorti en 1953. Il faudra attendre les années 1970 pour qu'il soit enfin décrit en littérature comme un être sensible et intelligent. Mais cette image lui reste collée à la peau, puisqu'on parle encore aujourd'hui de réhabilitation, avec par exemple l'ouverture en 2005 d'un parc préhistorique lui étant entièrement consacré dans les Charentes-Maritimes.
Ok, donc ça a pris du temps, mais tout est bien qui finit bien, non ? On a réhabilité Néandertal, c'est quoi le rapport avec le racisme du coup ?
Remettons un peu de contexte. Dans son article publié sur le blog Épistémocritique, Pascal Depape nous explique qu'au moment où on découvre Néandertal, Darwin vient de publier L'origine des espèces. Et le débat sur l'évolution fait rage dans la société pour des raisons principalement religieuses. À la fin du 19e siècle, le créationnisme, donc l'idée que Dieu a créé le monde il y a 4000 ans, est en recul. Mais cette période est aussi celle du colonialisme, et l'Afrique devient alors un énorme gâteau que l'Europe se partage sans vergogne. Et qui dit colonialisme dit théorie raciale et raciste sur l'inégalité des soi-disant races humaines, qui sont très largement étudiées et diffusées. Comme vous pouvez vous en douter, ces théories sont très utiles pour justifier le contrôle et l'esclavagisme de groupes humains jugés inférieurs. Les politiques s'appuyant sur les travaux des « savants », entre guillemets, qui découvrent et classent hiérarchiquement les races humaines qu'ils croient avoir identifiées. Néandertal et sa prétendue sauvagerie trouvent donc toute son utilité dans ce système. Pour certains, il serait l'ancêtre des races inférieures qui pourraient alors être considérées comme non humaines et ainsi justifier leur oppression. Comme nous l'explique Marilène Patoumatis, Néandertal a aussi servi au modernisme pour prouver la supériorité de l'homme moderne. Au XIXe siècle, le siècle des inventions, il faut montrer le progrès. On infériorise donc les hommes préhistoriques. Comment ? En les représentant violents et incapables de langage articulé. La sauvagerie des ancêtres est donc un mythe construit au XIXe siècle pour renforcer le concept de civilisation et le discours sur le progrès.
Mais j'avais cru comprendre qu'Homo sapiens avait exterminé Néandertal grâce à sa supériorité intellectuelle.
Eh bien, pas tout à fait. La science nous a donné la preuve qu'il y a eu rapprochement physique, mais pas pour se taper dessus. En effet, Priya Morjani, généticienne, a utilisé le séquençage génétique pour montrer qu'il y a 50 000 ans, Homo sapiens et Néandertal se sont accouplés régulièrement sur une période de 6 à 7 000 ans, expliquant donc les 2% d'ADN de Néandertal que les Européens portent en eux, selon une étude de Svante Paabo en 2017. En fait, Néandertal s'est peut-être éteint, entre autres, par manque de natalité face à celle plus prolifique d'Homo sapiens. Et avec l'avènement des nouvelles technologies, la science a pu montrer que Néandertal était un être sophistiqué, au régime alimentaire varié, digne de top chef, avec la présence de plantes amères ou de moisissures qui auraient pu être utilisées pour leurs vertus médicinales. Des preuves d'un artisanat développé et même d'actes chirurgicaux ont été retrouvées. Leurs compétences de chasseurs sous-entendent aussi la maîtrise d'un langage articulé et complexe pour coopérer et se coordonner. Je vous conseille la série de podcasts Néandertal, l'enquête du Muséum national d'histoire naturelle pour en savoir plus. Depuis sa découverte il y a presque 200 ans, Néandertal a été utilisé pour justifier l'esclavage, le colonialisme et plus récemment le modernisme. Cet exemple montre comment la science peut être détournée à des fins racistes, mais aussi comment le racisme peut biaiser les découvertes scientifiques. Et même si la science a rétabli la vérité, on voit à quel point cette image du Néandertal inférieur et brutal perdure dans les esprits et la société. Alors, la prochaine fois qu'on essaye de vous faire croire qu'une personne ou un groupe est inférieur, dénué de civilité et qu'il faut les exclure ou les détruire, pensez à Néandertal. Et demandez-vous s'il n'y a pas anguille sous roche. Ou, comme le dirait sûrement notre cousin, mammouth sous silex. Ce genre de raisonnement pourrait aussi marcher avec les animaux et l'environnement. Si on pense qu'ils nous sont inférieurs et inutiles, c'est bien plus facile de justifier leur destruction.
Merci Cécile pour cette remise à niveau de nos connaissances sur un de nos ancêtres.
La science dans tous ses états. Au Labo des Savoirs.
Comme nous parlons de racisme scientifique dans cette émission, il nous semblait pertinent de nous questionner sur ces mécanismes. Notamment, est-ce que la recherche sur les personnes noires était faite sur des préjugés racistes ? Aujourd'hui, nous recevons Madame Delphine Peretti-Courtis. Vous êtes professeure agrégée en histoire contemporaine à l'Université d'Aix-Marseille, membre du laboratoire TELEM. Dans votre livre « Corps noir, médecin blanc, la fabrique du préjugé racial » paru en 2021 aux éditions La Découverte, vous vous penchez précisément sur cette question. Pour commencer, et pour les auditoristes qui n'ont pas lu votre ouvrage, pouvez-vous nous parler de la thèse que vous y défendez ?
Oui, bonjour. Alors, je travaille dans cet ouvrage sur la construction des stéréotypes raciaux et sexuels sur les populations identifiées comme noires, populations essentiellement donc originaires d'Afrique subsaharienne, et donc je travaille sur la construction du savoir médical au cours des 18e et 19e siècles, puisque la médecine a contribué largement à construire des savoirs à partir de préjugés raciaux, des savoirs scientifiques sur les races humaines. Des préjugés qui se sont transformés ensuite en savoir, notamment par la répétition et l'accumulation de ces écrits scientifiques.
Ces recherches, elles ont été faites pendant le siècle des Lumières, notamment, un siècle associé souvent avec l'ouverture d'esprit. Est-ce qu'il n'y a pas un côté antinomique avec les thèses racistes qui y sont développées ?
Alors, en réalité, oui, effectivement, on peut penser que cela est tout à fait antinomique, mais je vais revenir juste sur la question de ce siècle des Lumières, c'est-à-dire que les scientifiques cherchent notamment à s'affranchir du savoir religieux pour expliquer l'origine de l'humanité, la diversité humaine. Donc, selon eux, c'est un savoir scientifique qu'ils offrent à l'humanité en tentant de la classifier et ils inventent ainsi les races humaines. Entendu dans un sens biologique, mais selon eux, il n'y a pas de caractère aliénant ou hiérarchisant, c'est-à-dire qu'ils vont simplement s'appuyer à l'époque sur des hiérarchies raciales existantes et ils vont naturaliser le social, c'est-à-dire un monde qui est déjà hiérarchisé par l'esclavage. Et donc, des scientifiques comme Carl von Linné, scientifique suédois, va classer le premier l'humanité en quatre grandes races quatre grandes races, mais il y a en fait une hiérarchie dès l'origine, c'est-à-dire que ces races vont être classées à la fois par couleur, mais aussi par tempérament. Et dans ces tempéraments, en réalité, il y a déjà des hiérarchies, puisqu'on considère par exemple que ce qu'ils nomment la race noire, c'est une race féminine, qui a un tempérament féminin. Donc il y a déjà des hiérarchies dès l'origine, dès la première grande classification des races humaines. Et en réalité, effectivement, il va y avoir de nombreux discours abolitionnistes au cours du siècle des Lumières, mais les abolitionnistes ne déconstruisent pas l'idée de race, ils s'appuient même sur l'idée de race pour considérer qu'il y a des races plus faibles qu'il faut protéger autrement et non les exploitants. Donc c'est aussi voilà, les abolitionnistes ne sont pas contre l'idée de race, ils s'appuient simplement sur cette idée pour revendiquer une égalité entre les races.
Oui, à l'époque, pour prendre des termes simples, la droite et la gauche s'accordaient sur l'existence et l'exploitation l'existence de l'esclavage et l'exploitation des personnes noires.
Oui, tout à fait. Alors, même si effectivement, pour les abolitionnistes, il va falloir remettre en question cette exploitation, mais en fait, la colonisation, pour être assez schématique, va se substituer à l'esclavage, mais avec d'autres arguments, c'est-à-dire que l'on va s'appuyer notamment sur la science, en considérant que l'on va coloniser des populations, leur apporter le savoir et la science des Lumières pour les libérer, pour les affranchir d'un obscurantisme ou de l'exploitation d'ailleurs, les affranchir de l'esclavage. Mais c'est une autre oppression qui s'instaure, c'est le colonialisme donc qui se répand dans les colonies d'Afrique ou d'Asie avec là des savoirs scientifiques qui vont justifier la colonisation, justifier l'éducation de populations jugées inférieures. Et c'est en cela que les théories raciales servent le politique au cours du 19e siècle.
Et dans la pratique, la médecine qui serait raciste de cette époque, est-ce qu'il y a des pratiques spécifiques de la médecine qui perpétuent ces stéréotypes et qui s'appuient sur ces stéréotypes ?
Oui, alors en réalité, ce sont même eux les auteurs de ces croyances, de ces savoirs. Ils s'appuient sur des présupposés, des stéréotypes qui existaient déjà pendant l'esclavage, développés par les planteurs ou par des hommes d'église, développés notamment pour justifier des pratiques esclavagistes. Dans ces présupposés, il y avait par exemple le présupposé de la résistance à la douleur, de la robustesse, de la force, permettant de justifier l'exploitation dans les plantations. Et les médecins vont s'appuyer en fait sur ce type de croyances, d'imaginaires, de stéréotypes, et ils vont rechercher dans les corps la marque, la preuve de ces stéréotypes. Mais les médecins, au-delà des pratiques, de leurs pratiques, ce sont eux les auteurs de ces théories, parce que au XVIIIe et XIXe siècle, ce sont des scientifiques et ce sont pas uniquement des soignants, comme on peut le penser aujourd'hui. Les médecins, ce sont à la fois des savants, des chercheurs, ce sont des individus qui, à l'époque, étudient les corps, mais aussi les âmes et les sociétés. Les corps sont les reflets, sont le reflet de l'âme à l'époque. Et agir sur les corps, c'est aussi agir sur la société. Donc, ils vont produire de nombreuses théories sur les populations humaines. Donc, au-delà des pratiques, ce sont ceux qui, au cours du 19e siècle, multiplient ce type d'études sur les catégories raciales. Et si je m'intéresse à présent aux pratiques, dans les colonies, ils vont produire ce savoir de terrain, rechercher notamment des preuves de la résistance à la douleur, des preuves de l'infériorité, de la supposée infériorité raciale des populations africaines. Et très souvent, lorsque cela contredit leur théorie, leur hypothèse de départ, ils vont mettre de côté donc l'individu qui contredit l'hypothèse de départ. Et dans les pratiques, ce que l'on constate, c'est que, par exemple, le présupposé de la résistance à la douleur qui devient un savoir par la répétition, par l'observation, le supposé empirisme censé prouver la théorie de départ. Donc, à partir de cette supposée résistance à la douleur, l'on observe que certains médecins n'ont pas attribué d'anesthésiant, par exemple, ou vont traiter effectivement les individus, les colonisés de manière différenciée par rapport aux colons européens présents sur ces territoires, considérant par exemple pour les femmes qu'elles ont une résistance extrême lors de l'accouchement. Donc c'est aussi un autre stéréotype fort dont on perçoit encore des héritages aujourd'hui, celui d'une résistance plus importante des femmes africaines pendant l'accouchement.
Quand vous parlez de ce qui arrive encore aujourd'hui, moi j'ai en tête le syndrome méditerranéen. Est-ce que c'est de ça dont on parle?
Alors oui, entre autres, même si le syndrome méditerranéen, c'est une transformation en quelque sorte de ces préjugés raciaux, c'est-à-dire que le syndrome méditerranéen apparaît à peu près dans les années 1970 et concerne au départ les populations du pourtour méditerranéen, notamment du nord de l'Afrique et populations du Maghreb, et par extension, on va l'attribuer aux populations d'Afrique subsaharienne ou originaires d'Afrique subsaharienne. C'est une croyance erronée, le syndrome méditerranéen, croyance selon laquelle des individus donc originaires d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne survaloriseraient, exagéreraient leur douleur. Et donc, dans l'héritage que l'on peut retrouver ici, c'est notamment le fait, c'est une essentialisation des personnes en fonction de leur couleur de peau, de leur culture supposée, de leur religion supposée, considérant qu'il y a une appartenance à un groupe qui serait plus résistant à la douleur ou qui exagérerait sa douleur. Donc le syndrome méditerranéen, c'est une extension en quelque sorte de toutes ces croyances du 19e siècle, croyances selon lesquelles il y aurait des populations plus ou moins résistantes à la douleur. Et dans le syndrome méditerranéen, on considère notamment que certaines personnes, donc identifiées comme appartenant à un groupe, résisteraient mieux à la douleur, mais qu'elles l'exagéreraient. Et c'est en cela qu'il y a des pratiques discriminatoires où l'on va déconsidérer cette douleur et parfois faire attendre des personnes donc identifiées comme noires ou africaines, on va les faire attendre plus longtemps aux urgences. Il y a des études très concrètes aujourd'hui en médecine, par exemple de Xavier Bobia, qui a fourni une enquête en janvier 2024 et qui montre, je schématise un petit peu, le résultat qu'il trouve à partir de l'étude de 1500 soignants et soignantes en France, en Belgique et en Suisse, mais aussi à Monaco, il démontre que en situation d'urgence, à l'accueil dans les urgences, une femme noire a 50% de chances en moins qu'un homme blanc d'être accueilli en urgence vitale pour les mêmes symptômes. C'est notamment dans le cadre de la prise en charge de maladies cardiovasculaires. Voilà, donc c'est simplement dans les héritages, là, un exemple pour vous montrer ici qu'il y a de réels héritages aujourd'hui dans la pratique médicale de ces croyances sur une supposée plus grande résistance à la douleur des populations, des femmes ou des hommes originaires d'Afrique subsaharienne.
Et pour rester dans le cadre du 19e siècle, en nous renseignant sur le racisme scientifique et donc le racialisme, on a pu voir les ponts entre colonisation et pratique de la médecine et le nazisme. Est-ce que le lien entre racialisme et nazisme est avéré?
Alors oui, tout à fait. C'est l'objet d'ailleurs d'un prochain ouvrage qu'on va publier avec une sociologue, Elodie Edwards-Grossi, sur les héritages du racisme scientifique et les réappropriations actuelles et les liens, entre autres, entre racisme, nazisme et la pensée donc ségrégationniste américaine. Et alors effectivement, donc là, pour vous prendre l'exemple notamment donc du lien entre racisme, nazisme, et je vais également parler d'eugénisme américain, c'est qu'il y a effectivement de grandes circulations scientifiques. Moi, je me suis plutôt intéressée dans mon ouvrage aux médecins français, mais je travaille actuellement justement sur ces circulations scientifiques. Et ce que l'on sait, c'est qu'au 19e siècle, il n'y a pas de frontières nationales dans ce savoir sur les races humaines. Au contraire, il y a beaucoup d'échanges, à la fois de théories, de croyances, mais aussi d'instruments pour mesurer les corps et approfondir ce savoir sur les races. Donc on sait que les théories, par exemple, de Broca sur l'existence de plusieurs espèces humaines ont franchi l'Atlantique et se sont répandues en Amérique du Nord, notamment chez des scientifiques polygénistes comme Broca, qui croyaient en l'existence de plusieurs espèces humaines, Josiah Nott, George Gleddon, Samuel Morton, que l'on connaît notamment pour ses collections de crânes, ils ont repris ces modèles européens et voilà, il y a eu de grands échanges entre ces théoriciens des races au cours du 19e siècle. jusqu'au développement de l'eugénisme fin 19e siècle, l'idée que l'on peut créer, une théorie de Francis Galton, scientifique britannique, selon laquelle on pourrait créer une race supérieure, pour simplifier. Aux États-Unis, la pensée eugéniste connaît un grand succès, et Madison Grant, par exemple, en 1916, publie un ouvrage, Le déclin de la grande race. Il y dénonce les métissages, tout comme Gobineau, quelques décennies auparavant en France. Et Madison Grant, donc l'un des fervents défenseurs de l'eugénisme aux États-Unis, un pays où les lois raciales et racistes sont déjà pleinement présentes, Madison Grant va influencer Hitler. Madison Grant ou encore Arthur de Gobineau, qui a publié en 1855 « Essai sur l'inégalité des races humaines ». Gobineau, comme Grant, comme bien d'autres théoriciens des races humaines, vont influencer Adolf Hitler et les grands théoriciens, enfin ceux que l'on a considérés comme les théoriciens principaux du nazisme, Alfred Rosenberg par exemple. Tous ceux-ci donc vont s'appuyer sur ces scientifiques, considérant que la science est la science est là pour apporter des vérités sur l'humanité. Donc ces théoriciens, enfin et ces hommes politiques considèrent qu'il y a une possibilité de créer une race supérieure, et ils vont tout à fait approuver et corroborer en fait cette idée selon laquelle il y aurait des races supérieures et des races inférieures. Donc bien sûr, le racisme a influencé le nazisme, et vous voyez, ce sont là des allers-retours entre l'Europe mais aussi l'Amérique du Nord qui vont nourrir la pensée d'Adolf Hitler. Et Hitler, d'ailleurs, pensait que les États-Unis étaient un excellent modèle. La ségrégation imposée aux États-Unis était, selon lui, un modèle à mettre en place également en Europe. Voilà, donc. My inner peace is broken into five.
bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs.
Donc, j'allais vous poser la question, pensez-vous que le racisme scientifique existe encore de nos jours? Et en fait, vous avez commencé à y répondre. Moi, le lien que je fais avec notamment Madison Grant, dont vous avez parlé, c'est l'utilisation du terme « mauvais gène » par Donald Trump dans un de ses discours quand il parlait d'immigration. Donc, comment on fait pour apprendre du passé et éviter de répéter ces erreurs de nos jours?
Alors, comment est-ce que l'on fait? Ben, effectivement, peut-être par la connaissance, c'est-à-dire diffuser, comme vous le faites d'ailleurs, des émissions sur la question du racisme scientifique, essayer de, effectivement, dans tous les pays aujourd'hui, c'est une menace en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud également, une menace croissante, le racisme primaire, le racisme culturel et le racisme scientifique, c'est-à-dire qu'on va puiser à nouveau dans ces théories raciales du 19e siècle, considérant là qu'il s'agit d'une science qui a été dévoyée après par la bien-pensance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de nombreux tenants de ce racisme scientifique du 19e siècle qui considèrent qu'il y a de réelles, des catégories biologiques, catégories raciales biologiques, et que c'est une science idéologique, une science bien pensante qui aurait déconstruit cette idée selon laquelle il existerait des races humaines biologiques. Donc aujourd'hui, malgré le fait que la science et notamment la génétique ait prouvé que le patrimoine génétique de l'humanité est partagé à plus de 99,9%, de nombreux scientifiques écrivent à nouveau des ouvrages, notamment sur le QI des races, donc le quotient intellectuel des races, et ce sont des scientifiques comme James Watson, prix Nobel, qui est co-découvreur de l'ADN, et qui en 2008 énonçait dans un journal, le Sunday Times, qu'il y avait bien des races humaines, qu'il y avait des différences également d'intelligence, des inégalités entre les races humaines, et notamment du point de vue de l'intelligence. Et il évoquait le fait que les populations africaines étaient moins intelligentes que les populations caucasiennes. Donc voilà le type de discours que l'on peut entendre aujourd'hui par des scientifiques, alors qu'ils vont être exclus, ostracisés de la sphère scientifique, mais malgré tout qui font des émules, parce que dans le monde, James Watson va être cité par d'autres théoriciens français, britanniques, allemands, ou encore, je parle de l'Afrique du Sud parce que cela ressurgit aussi beaucoup aujourd'hui. Vous connaissez peut-être la ville d'Orania, qui est une ville en fait aujourd'hui de 2500 habitants, qui est uniquement blanche et où l'on interdit donc l'entrée d'individus noirs, et où l'on va justement puiser dans ces thèses du racisme scientifique du 19e siècle, en considérant que le cerveau des hommes et des femmes identifiés comme noirs n'est pas est façonné de telle façon à ce qu'il soit inférieur, voire dangereux, et qu'il faut se préparer à une guerre civile. Donc à Orania, on forme les jeunes gens dans des groupes paramilitaires, notamment on les forme à une future guerre civile, et on les forme aussi en diffusant ce type de connaissances sur l'existence de races, et notamment d'une donc tout cela pour vous dire qu'effectivement on retrouve aujourd'hui au-delà de ces discours scientifiques des réappropriations politiques. Et effectivement, Donald Trump, dans certains de ses discours, utilise des termes qui étaient propres à ceux des eugénistes tels que Madison Grant. Et donc, c'est assez effrayant, et il me semble que c'est seulement par la connaissance, la diffusion de cela et un combat mené par des scientifiques eux-mêmes, mais aussi par les politiques qui doivent s'approprier ce combat aussi.
Oui. Et vous avez parlé de l'utilisation du QI. Moi, j'ai pu voir, et ça a été documenté dans la presse française, l'utilisation de cartes de QI, donc des cartes géographiques présentant l'évolution du QI dans le monde par différents militants d'extrême droite. Donc c'est clair que l'utilisation des théories pseudo-scientifiques peut est avérée. Vous parliez du fait que maintenant, l'extrême droite dit que c'est la bien-pensance qui a produit une science de bonne qualité, selon notre définition. Est-ce que ce ne serait pas juste un changement dans la méthode d'analyse scientifique, puisque vous parliez du 18e et du 19e siècle, de scientifiques qui cherchaient à prouver ce qu'ils savaient déjà. Donc ce n'est pas la méthode scientifique qu'on utilise de nos jours. Est-ce que c'est juste cette différence de méthode qui produit une science raciste ?
Oui, tout à fait. Alors, il me semble que c'est la science elle-même, en réalité, qui a déconstruit ce qu'elle avait tenté de construire pendant plus d'un siècle et demi. C'est grâce aux progrès dans le domaine de la génétique que l'on a pu déconstruire cette croyance en l'existence de race humaine biologique. Mais aujourd'hui, certains considèrent que la combinaison de facteurs après 1945, facteurs politiques, éthiques et moraux, avec ces découvertes scientifiques, ont contribué en fait à faire en sorte que la science aille en faveur en fait des combats politiques, éthiques ou moraux. C'est-à-dire que voilà, certains scientifiques aujourd'hui qui travaillent plutôt dans le sens de la démonstration de l'existence de races humaines biologiques considèrent que c'est la découverte du génocide des Juifs et des Tziganes en 1945 qui aurait contribué à l'invalidation du concept de race. Alors certes, cela y a contribué à la lutte contre la race biologique, mais ce sont aussi de véritables découvertes scientifiques qui ont permis, depuis 1945, avec 1973, Richard Lewontin notamment, qui démontre ce patrimoine génétique partagé, et depuis donc les dernières décennies également, la communauté scientifique le consensus est admis dans la communauté scientifique, mais aujourd'hui, effectivement, il y a cette science souterraine en quelque sorte qui cherche à faire ressurgir ces anciennes thèses. Mais en réalité, ce qu'elle accuse de bien-pensance ou de wokisme, d'ailleurs, on considère que c'est une science woke qui a pour but simplement de... On parle aussi d'idéologie égalitaire. Donc cette science qui vise en fait à déconstruire effectivement ces savoirs qui sont aujourd'hui admis et admis depuis la deuxième moitié du XXe siècle, l'idée de ce patrimoine génétique partagé et d'une inexistence de race humaine biologique. Donc c'est effectivement plutôt, il se réapproprie là d'autres moyens de faire de la science qui étaient les moyens utilisés au XIXe siècle, c'est-à-dire prouver l'existence d'une inégalité entre les populations, mais là en utilisant d'autres critères, c'est-à-dire que les autres critères ce sont les scientifiques eux-mêmes qui se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas créer de race humaine à partir de la couleur de peau parce qu'il y avait une trop grande diversité. Ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas créer de race humaine à partir des crânes. Et en fait, les scientifiques ont déconstruit eux-mêmes aussi, à force d'analyse, ils ont démontré qu'il n'y avait pas de correspondance et de possibilité de créer des races humaines fixes. Mais aujourd'hui, on se sert du QI ou d'autres critères pour faire ressurgir, enfin pour essayer de redonner vie à cette science qui a été qui pourtant s'est vue déconstruite depuis le milieu du XXe siècle. Et aujourd'hui, c'est une accusation assez pratique, pas uniquement de la part de ces scientifiques, que d'accuser ceux qui prônent effectivement et qui considèrent qu'il y a qu'il n'existe pas de race humaine, de considérer qu'ils font partie des woke ou d'une idéologie égalitariste, etc.
C'est un fait, la science a avancé sur ses méthodes pour réduire justement les biais des expérimentateurs et expérimentatrices. Comment on fait pour se battre, entre guillemets, contre des monuments comme Carl von Linné, vous l'avez cité, ou même Charles Darwin, qui dans l'Origine des espèces avait en plus fait cette distinction entre les races humaines. Eh bien, comment on fait dans l'éducation, dans la culture populaire pour éviter que le racisme scientifique ne continue de perdurer?
Alors, il me semble que l'on peut démontrer notamment que cette science été réalisé comme toute science hein, par des êtres humains dans un contexte qui était celui de l'esclavage et de la colonisation. Donc on peut effectivement replacer la science comme sacraliser la science. La science s'effectue dans des contextes politiques, économiques et idéologiques précis et l'on peut expliquer qu'il y avait aussi à cette époque-là une grande ignorance sur la diversité, les mécanismes même de la diversité humaine. Donc c'est aussi au XVIIIe siècle on commençait à s'emparer là de la science après des siècles de diffusion de maîtrise en fait du savoir par l'Église. C'est à partir du XVIIIe siècle que l'on commence véritablement à s'affranchir de ces savoirs religieux. Donc c'est aussi une science en construction. Donc il faut connaître ces scientifiques, connaître leurs pensées, leurs idées, leurs théories pour les déconstruire en effet, mais pour montrer qu'il s'agit là en fait d'une construction. La science se construit perpétuellement et c'était une phase de la construction scientifique, mais une phase qui s'intégrait là dans l'esclavage puis la colonisation. Et il y avait effectivement de la part de ces savants une compréhension du monde qui était un monde dans lequel monde auquel ils appartenaient, mais un monde hiérarchisé. Et voilà, donc Darwin va être utilisé largement aussi pour démontrer, après 1859 et son ouvrage de l'origine des espèces, pour démontrer qu'il y aurait là une évolution entre les espèces, et notamment entre les races, et pour justifier la colonisation. Voilà, donc Darwin n'a pas tant développé cette idée des races humaines. Lui, il considérait qu'il y avait une seule espèce, du moins, il était monogéniste, mais ce sont surtout ces théories ont essentiellement été utilisées par d'autres scientifiques qui ont vu en l'évolutionnisme la possibilité de démontrer qu'il y avait des races dites attardées et d'autres évoluées.
Merci Madame Peretti-Curtis pour cette interview.
Merci à vous.
Encore merci à Delphine Peretti-Curtis et à Gilles Butch d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Cécile pour sa chronique, que vous pourrez retrouver sur le site du Labo des Savoirs. Pour approfondir le sujet, je vous invite également à regarder l'excellente série de vidéos de la chaîne YouTube Histoire Crépue sur le racisme scientifique. Une émission préparée par Pierre Martin et Shaïma Rabi et réalisée par Pierre Martin et Sophie Potvin, que vous pourrez écouter sur toutes vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodessavoirs.fr ou nos réseaux sociaux et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.